Vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne. Vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 122. À l'Est, se passe-t-il toujours rien ? Jean-Paul Picaper. Alors, chers amis, bonjour. La Terre tourne de travers. Les gens sont fous. Et il y a des experts partout. Et nous, dans notre émission, vous l'avez bien connue, sur Radio Judaïque à Strasbourg, nous avons l'ambition de dire « c'est pas nous ». C'est pas nous qu'allons redresser la planète, c'est pas nous les spécialistes qui pérorent, car on sait tout. On va tout vous dire sur la géopolitique, les légumes biologiques, on va vous raconter pourquoi il faut s'indigner et faire semblant de tomber en pâmoison devant tant de raisons. Non, non, on va parler de rien, parce que les petits riens, c'est passionnant, et même si notre invité est quelqu'un de très connu, il a écrit plein de livres, par exemple sur les enfants maudits dont la maman était française et le papa un soldat allemand. Et puis un livre sur l'empereur Otto von Habsbourg, un sur les ombres d'Oradour, c'est le titre du livre, ou sur les nazis qui ont échappé à la corde après-guerre. Alors notre invité est journaliste, il a été le correspondant du Figaro en Allemagne. Aujourd'hui, il dirige une belle association franco-allemande, c'est à Strasbourg, c'est l'Europe. Alors, c'est apostrophe, L apostrophe Europe. Oui, son nom, c'est Jean-Paul Picaper. Bonjour Jean-Paul Picaper.
Bonjour Ambroise Perrin.
Donc, on va s'intéresser à ce qui n'est rien, c'est-à-dire tout. Alors, on n'a plus rien, chantait Léo Ferré, et ce rien, je vous le donne. Et nous, on n'a pas préparé les réponses et les questions, hein, je vais le dire à chaque fois dans cette nouvelle mouture d'émission, puisque nous sommes encore au mois de septembre et c'est le début de la nouvelle saison sur Radio Judaïca Strasbourg. Donc, première question importante, un tel personnage comme vous, aimez-vous la tarte au fromage ?
Eh bien, je dois dire que je n'ai aucune compétence particulière en la matière, en cette matière onctueuse. Hein. Mais mon épouse m'achète souvent le midi des petites tartelettes chez un excellent boulanger, pâtissier, dans une rue que vous connaissez bien, puisque vous y habitez.
Oui,
je
alors
ne fais pas de réclame.
Non, nous non plus, mais enfin, on en parle à chaque fois, c'est un running gag.
Oui.
Mais bon, j'espère que ça lui apporte beaucoup de clients.
Et c'est excellente.
Oui.
Il y a des divers ingrédients. On peut choisir selon la tarte. Il y a aussi des tartes aux légumes. C'est ce que nous préférons, d'ailleurs. Et vraiment, c'est excellent. Donc, j'adore le fromage. Il est vrai que j'ai passé quelques temps dans un pays de fromage, en Occitanie, cet été, et que je m'en suis donné corps perdu.
Alors, justement, vous êtes né à Pau.
Oui.
Alors, une ville qui est devenue célèbre par Henri IV, qui est devenu Premier ministre.
Bon, je suis rassuré. Je croyais que vous parliez d'un autre homme.
Qui risque
d'être assassiné prochainement.
Oui.
Assassiné politiquement, j'entends.
Oui, hein. oui, mais voilà. Alors, comme nous sommes le 9 septembre, ça s'est passé hier, sauf qu'aujourd'hui, on est avant-hier, puisqu'on enregistre l'émission.
Oui,
alors, on ne sait pas.
Oui.
Mais donc, Henri IV est toujours là.
Je vis dans le futur plutôt que dans le passé.
Voilà.
Ça, je le souligne.
Alors, est-ce que vous,
malgré mon âge,
dans le Béarn, vous avez quel âge ? On ne pose jamais cette question à la radio.
Écoutez,
on ne la pose pas.
Je ne sais pas, parce que mon épouse me dit de ne pas le dire, parce que ça fait fuir les petits-enfants. Quand ils entendent ça, oui. Ils ont peur.
Ça attire peut-être les jeunes filles ?
Oh, les jeunes filles, c'est déjà, je dirais, mon passé.
Comme prof à la fac, un prof vénérable qui a dépassé les 60 ans ou les 65 ans, c'est quand même quelqu'un qui impose.
C'est vrai, je ne suis pas encore empaillé.
Oui.
Mais enfin, quand même, Je dirais qu'on vit surtout de ses souvenirs, du moins dans certains domaines.
Voilà.
Enfin, j'ai fait du ski quand même cet hiver avec mon fils aîné, qui est vraiment un as, parce que je l'ai fait, je lui ai appris à faire du ski. Et il m'a dit, papa, personne ne fait du ski comme toi sur cette terre à 86 ans.
Ah oui.
Voilà.
Mais vous l'avez dit, oui. Mais alors, en fait, maintenant... vous avez appris le ski à votre fils, mm-hmm. et maintenant c'est votre fils qui vous donne des leçons de descente rapide et des choses comme ça.
Oui, de carving, ça de s'appelle comme
carving.
Ça. Oui,
carving.
Oui,
c'est chef.
On prend les virages sur des cars, sur les cars. C'est beaucoup plus vite et beaucoup plus précis.
Et le kart rouge, c'est la boisson du kart rouge.
Ah non, rien à voir. Les cars, ce sont les lamelles qui sont sur les bords des skis.
D'accord.
En métal.
Voilà.
Alors, je suis né dans les Pyrénées.
Ben
puisque vous parliez de Pau,
alors justement,
je suis un Pyrénéen.
Mais alors, est-ce que c'est dans le Béarn qu'on apprend l'allemand ?
Non, pas du tout, justement. Mais ma mère était un peu ambitieuse, peut-être, pour ses fils. Et elle avait souvent des idées bizarres. Et elle a dit, mon père avait participé à la résistance, il m'y a d'ailleurs emmené. Je me rappelle très bien d'une scène dans une forêt où nous courions poursuivis par les, entre guillemets, Boches. Ce sont des souvenirs qui marquent, puisque vous avez demandé dans d'autres émissions quels souvenirs d'enfance vous marquent. J'avais 4 ou 5 ou 6 ans, je ne sais plus. Et je dois dire que ce souvenir-là m'a vraiment profondément marqué. Je vois encore les soldats allemands. Dans nos rues, n'est-ce pas, tous les soirs, je connais le couvre-feu de l'époque, avec mes parents derrière les persiennes, nous regardons les soldats allemands défiler tous les soirs, et je sens la peur des adultes. Et figurez-vous, quand je suis arrivé à Berlin en 1959, pour la première fois, il y avait dans la gare de Friedrichstrasse une espèce de passerelle au-dessus des voies et d'où des faupos surveillaient les voies et qu'il n'arrive rien et qu'il n'y ait pas surtout d'invasion des impérialistes.
Hein. Alors là, vous étiez étudiant et soldat.
Étudiant, oui. J'étais étudiant.
C'était pas encore votre service militaire.
Non, pas encore, non. L'uniforme m'a frappé. C'était l'uniforme de la Wehrmacht. Je me suis dit... Nom d'une pipe. Il y a une continuité.
Mais alors, pourquoi aviez-vous appris l'allemand ?
Oui, alors pourquoi ? Bien, parce que mon père, justement, je disais, était dans la résistance et tout ça. Et il avait dit... J'ai retrouvé une lettre qu'il avait écrite à ma mère. Il parlait des Allemands, ces salopards, etc. N'est-ce pas ? C'était vraiment la haine. Et ma mère, en 1947-48, quand les choses... se sont remises un peu en ordre.
Qu'on a oublié l'idée qu'il fallait se venger.
Oui, il y a peut-être. Cette idée-là. Je sais que c'est une de vos idées, Ambroise.
Oui.
Je sais. Exactement, c'est ça. Mais elle a dit le contraire. Elle a dit, il faut se réconcilier avec les Allemands. C'est une grande culture. Un de ses cousins, qu'elle aimait beaucoup, qui est revenu de captivité... avait refusé dans le camp d'aller travailler. Il pouvait aller travailler, les officiers, il est dans un Neuflac, c'était un polytechnicien, ce cousin, l'intello de la famille. Et il a refusé d'aller travailler, il est resté dans le camp, il a appris l'allemand et il a lu la littérature allemande et il est revenu en disant à ma mère, écoute, il faut se réconcilier avec eux, c'est une grande culture, ils sont comme nous et on peut se comprendre.
Oui, mais voilà. Ça, c'est
il faut cesser
la
guerre.
C'est une ancienne, on répète toujours, comment un peuple qui a eu Goethe a pu avoir le national-socialisme.
Oui, hein. le pays des penseurs et des poètes qui a eu Hitler.
Voilà.
Bon, ben, c'est un accident de l'histoire. Il faut demander aux Américains pourquoi ils ont fui la crise économique mondiale.
Comment ils ont fait pour avoir Trump.
Il faut demander à Poincaré, je ne sais plus à qui... à l'époque, hein, qui, pourquoi on a fait le traité de Versailles. Il faut demander des tas de choses comme ça.
L'humiliation terrible.
Voilà. Oui. Et puis, ils crevaient de faim, ils n'avaient pas de travail, il n'y avait, avait pas d'assurance chômage, hein, et les hommes étaient à la rue. Hein. Oui. Il n'y avait rien à bouffer.
Donc, vous arrivez à Berlin.
Les femmes ont voté Hitler. Hein.
Oui. Mmh. Oui. Bah oui, c'est parce qu'ils se sont dit, on va changer. Oui,
mais ils promettaient monts et merveilles.
Voilà. On dit, on va changer un peu, on va le prendre. Voilà. On n'est pas d'accord avec lui, mais on va le prendre quelques années, et puis on verra après.
Oui, il va se...
Espérons qu'on ne fasse pas cela aussi en France.
Hein. Moi aussi, je dis, c'est ça.
Oui. Alors, quelle est la petite chose, le petit rien qui a fait que vous êtes devenu un pilier de la référence allemande en France?
Ben, il faut dire quand même Le Figaro.
Oui.
Oui. Qui était quand même lu
par le grand journal,
400 à 500 000 personnes.
Avec Le Monde et...
Et j'avais tous les jours, mon rédacteur en chef, François-Olivier Gisbert, disait d'abord on prend l'article de Picapère et ensuite on voit ce qu'on met autour dans le journal.
Parce que... Ouh là là, quel vantard.
Oui,
non,
oui.
C'est vrai.
Mais il a dit ça. Oui. Il a dit ça, oui.
Ah, mais...
il le disait de temps en temps. Pour rigoler.
Pour flatter, oui.
Pour rigoler.
Pour ne pas augmenter vos
biges.
Bien sûr.
Non, mais c'était pas ça. Mais l'Allemagne était le principal allié de la France. Mmh. C'est ça.
Oui.
C'était l'allié numéro un, après avoir été l'ennemi numéro un. C'était absolument fantastique. Oui. Je suis arrivé là-dedans. Bon, j'avais déjà eu un passé en Allemagne. Hein. J'avais fait le service militaire, m'avait rappelé. Je l'avais complètement oublié, j'étais sursitaire. Et bon, il a fallu que je le fasse, mais je l'ai fait dans des conditions, après avoir fait les classes, comme on disait, hein, et avoir refusé d'être élève officier... je ne suis pas allé aux EOR, je suis resté à Berlin, je voulais absolument rester à Berlin. Et j'ai donc fait mon service militaire, le reste du service militaire, au gouvernement militaire français de Berlin. Ce qui était un truc absolument passionnant.
Comme on dit.
C'était une planque, mais avec beaucoup de travail.
Hein. Oui. Et avec beaucoup de contacts.
Beaucoup de contacts avec les alliés aussi.
Oui.
Les
et vous alliez de l'Est à l'Ouest
Pas là, parce que je faisais mon service militaire. Je ne pouvais pas aller à l'Est. Si je suis allé à l'Est, dans la voiture d'un officier avec lequel j'étais ami, et on a circulé la nuit le long du mur à l'Est, c'était absolument fantomatique. C'était un film de John le Carré, quoi. C'était vraiment passionnant. Et voilà, et puis je recevais aussi pour les traduire. J'étais surtout traducteur, rédacteur, et je recevais des rapports d'espionnage aussi, en allemand, que je traduisais en français. C'était assez intéressant. Alors, donc voilà, j'avais eu une ville, j'avais été aussi prof à l'université de Berlin. J'ai fait toute une carrière jusqu'au doctorat d'État, là, en sciences politiques. J'ai vécu la révolution étudiante, qui était pas en 68, là, mais la durée de 64 à 69.
C'était Dubček, c'est ça?
C'était Dutschke.
Dutschke.
Dutschke, oui. Rudi Dutschke, qui venait de RDA, d'ailleurs. Oui. Enfin, tout ça, c'est un... Ouais. J'ai écrit un livre au Berlin Stasi.
Oui.
Il faut lire ça. J'ai un peu beaucoup raconté, là. Enfin, la vérité, ce que j'avais vécu. Et puis voilà, et j'arrive là, et un jour, j'avais écrit quelques articles dans Le Figaro, dans Le Monde d'abord, et puis dans Le Figaro, parce que Le Monde ne voulait pas prendre mes articles, ils étaient trop anticommunistes. J'avais découvert la vérité sur le communisme, là.
C'était Bianson-Ponté, encore, ou Fontaine
C'était André Fontaine.
André Fontaine. Alors, moi, en tant que lecteur du Monde, par affinité, à cause de la fac et tout, je me faisais fort, et je ne sais pas quel prof m'avait influencé pour faire ça, de lire, comme on disait, l'ennemi. Mais ce n'est pas l'ennemi. Donc, je lisais les journaux dits de droite. Je lisais notamment Le Figaro. Et j'ai toujours dit, avant même de vous connaître, que les pages diplomatiques du Figaro étaient meilleures ou plus intéressantes que celles du Monde. Et c'est comme ça qu'il y a 30 ans que j'ai lu vos articles. Donc, je suis béat d'admiration. Il fallait aussi lire les autres journaux parce que c'est toujours intéressant de lire ce que pensent les autres. Ça permet de conforter son idée. En tant que journaliste au Figaro, vous lisiez aussi les journaux dits de gauche, l'UMA, qui encensaient le Parti communiste encore à l'époque.
Ils se trompaient drôlement.
Oui.
Mais justement, moi j'ai été trompé. Mon père me dit, oh, les communistes français, ce sont des républicains, des libéraux, ils veulent la liberté. Ils
Votre se papa sont était communiste.
Avec nous. Non, mon père n'était pas communiste. Mon père a été neutre. Mon père a un autre passé, etc. Et mon père était un artisan. Il était mécanicien garagiste et mécanicien d'aviation aussi. Il l'a été en Afrique, en Éthiopie, etc. Mais voilà, donc à Pau, j'ai découvert cette... il me disait, donc, les communistes sont des libéraux. Ils sont pour la République.
Et à Berlin, j'arrive là-bas, à Berlin, vous avez vu le contraire.
Total. Je raccourcis, parce que ça a duré quelques mois, la désillusion. Mais j'arrive donc comme étudiant avec une bourse du Deutsche Akademische Aussagedienst. Et je voulais aller à Munich pour faire du ski. Et puis le prof à Bordeaux, le prof de germanistique, m'a dit « Allez donc à Berlin, personne ne veut y aller. Vous aurez une magnifique chambre à la cité universitaire. Vous aurez une bourse formidable, etc. » Je suis allé à Berlin, personne ne voulait y aller. Et là, j'ai découvert, j'allais tout le temps. Il n'y avait pas encore le mur en 59. J'allais tout le temps, souvent, à Berlin-Est, et je discutais avec des étudiants d'Est allemand qui venaient en groupe pour se surveiller les uns les autres, naturellement. Il y avait un responsable parmi eux qui les fichait. Ils venaient aussi à l'université de Berlin-Ouest et ils venaient discuter. Et je me suis aperçu que ce n'était pas la réalité, qu'ils fantasmaient, qu'ils racontaient des histoires, parce que j'allais parler au peuple, comme on l'appelle, comme Merluchon l'appelle aujourd'hui, le peuple. Eh bien, le peuple, je l'ai vu, le peuple, il était profondément anticommuniste, mais à 90%. C'était la souffrance. D'ailleurs, j'ai vu les camps de réfugiés à Berlin-Ouest se remplir. Je suis allé beaucoup dans ces camps. Tous les paysans sont partis d'un coup quand les terres qu'on leur avait données en 1945 pour les amadouer, on les leur a confisquées à nouveau et fait des kolkhozes, des LPG, ça s'appelait. Voilà. Donc,
C'était après Staline quand même. Staline est mort en 1953.
Oui, voilà, c'était longtemps après Staline, mais il y avait encore Ulbricht, quand même.
Oui, en Allemagne de l'Est. Oui.
Voilà, donc mes yeux se sont dessillés, pour ainsi dire. Après mon année de littéraire, puisque j'avais fait germanistique, licence d'allemand, de germanistique, suédois, allemand-suédois, et puis le DES... diplôme d'études supérieures de je ne sais pas quoi. J'étais arrivé là comme étudiant et puis je me suis dit non, tu ne peux pas partir dans un lycée en France, prof à fouiller les oies, par exemple, et ensuite oublier tout ça, quoi. Y a ici le conflit mondial. J'ai découvert la géopolitique, quoi. Donc il faut s'accrocher à ça. Alors je suis allé faire Sciences Po à Paris.
Ah oui.
Voilà.
Mais alors, quel est le petit truc là, qui a déclenché tout cela? C'est le fait d'avoir rencontré le peuple, comme vous dites, vous êtes allé dans un village, vous avez vu les gens qui étaient malheureux, qui disaient...
Oui, mais à Berlin-Est aussi.
Ah
oui, Berlin-Est aussi, bien sûr. Mais les gens parlaient franchement parce que j'étais français. Ils avaient confiance.
Ils se doutaient que vous
étiez... Et puis j'ai parlé beaucoup à des étudiants de Berlin-Est. J'avais un ami... Walter Ivas.
L'allemand, vous aviez un accent français ou...
À l'époque, oui. J'ai appris peu à peu. Mais j'ai
vous
vécu
êtes...
dans un milieu totalement allemand. Des mois et des mois, je ne parlais qu'allemand.
Oui.
Pendant des années même. Et j'enseignais en allemand à l'université aussi après.
Oui.
Et j'ai des enfants parfaitement bilingues, sans accent dans les deux langues. Et parlant l'argot dans les deux langues.
Ah ben, parfait, oui. Voilà, c'est ça. Voilà. Et quand on rêve dans une langue, en fait, c'est ce qu'on appelle la langue vernaculaire, je crois.
Oui, à la maison, on mélangeait l'allemand et le français. On commençait une phrase en français, la finissait en allemand.
C'est comme les Alsaciens qui mélangent les deux.
Alsaciens.
On commence une phrase dans une langue.
C'est pour ça que je me sens bien à Strasbourg, naturellement.
Voilà. Faisant alors
un
justement,
peu de
j'allais dire
local.
Comment...
Moi, Béarnais à Strasbourg, vous voyez, je me sens très très bien ici.
Alors parfois, on change de ville, c'est aussi pour des raisons, parfois parce qu'on est amoureux, par exemple.
Oui, il y a eu ça. Mais voyons.
Oui.
Ça, c'est le rien.
Alors justement, vous avez une demi-heure. devant vous, entre deux occupations importantes, donc c'est une demi-heure de temps perdu, qu'est-ce que vous faites ? Ça n'existe pas ? Vous n'avez jamais une demi-heure de temps perdu où vous avez un trou dans votre emploi du temps de la journée ?
Jamais, je suis à la poursuite du temps. Et plus on vieillit, plus le temps est précieux,
oui.
Cher ami.
Voilà.
Voilà.
Donc, c'est...
j'ai encore beaucoup de livres à écrire. Mes enfants me pressent d'écrire mes mémoires. Mais je dis, j'ai le temps, je ne suis pas encore vieux.
Est-ce que vous avez lu À la recherche du temps perdu ?
Oui, j'ai lu ça.
Bien sûr, oui.
J'ai lu Marcel, oui.
Oui, c'est trop génial, oui. Non ? Vous êtes d'accord ?
Oui, absolument.
Oui,
absolument.
D'accord, voilà.
Ce maître-là, oui. Nous avons tous une bonne dose de temps perdu derrière nous.
Oui.
On a des souvenirs, mais on a des choses qu'on regrette de ne pas avoir faites.
Est-ce que c'est de la mélancolie, ça ?
Oui, peut-être, il y a de la mélancolie, oui.
Oui.
Il ne faut pas que ça devienne suicidaire, surtout.
Oui.
Il ne faut pas que ça devienne... Oui. Nihiliste.
Alors j'aime bien citer Flaubert dans l'éducation sentimentale, je vais le faire par cœur. Il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots, l'effroi réveil sous la tente. La mélancolie des paquebots, l'effroi réveil sous la tente.
C'est Valérie Larbeau.
Il eut. Non, c'est dans l'éducation sentimentale. Voilà. L'effroi réveil sous la tente. Ça y est, j'ai un trou. Il revint.
Oui.
Il eut d'autres amours encore, mais le souvenir du premier les lui rendait insipides, etc., etc.
Ah,
voilà.
Ça, c'est bien.
Voilà, c'est bien. Est-ce qu'à l'école, vous étiez quelqu'un de bagarreur ?
Oh non, pas du tout, au contraire, je fuyais la bagarre. J'ai toujours fui la bagarre. Oui. Je ne suis pas peureux, spécialement, mais j'aime pas la bagarre, j'aime pas les cris, j'aime pas les gens qui se maîtrisent plus, qui tape comme
non,
ça.
Voilà.
J'aime les honnêtes gens tranquilles qui réfléchissent, qui savent où ils vont, qui ont des bonnes relations avec leurs voisins.
Courage, fuyons,
c'est voilà. Ça, voilà.
Ça me revient. Il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'amertume des sympathies interrompues. Voilà, c'est bien.
Ah oui, ça me donne à penser à Valérie Larbeau, au train de luxe, je vous aime, etc.
Oui.
Sur l'Orient Express, un peu.
Voilà. Bon, la littérature nous sauvera toujours.
Ouais. Ouais.
Et alors, à table, est-ce que vous étiez du genre à finir votre assiette ou à pleurer parce que vous n'aviez pas assez ? Alors, quand même, vous avez connu la période de la guerre. Donc, est-ce que vous avez eu faim pendant la guerre ?
Non, pas spécialement, parce que mon père étant garagiste à Pau, travaillait beaucoup pour des paysans. Il leur installait le gazogène. C'est un truc qu'on a oublié aujourd'hui.
Sur la traction avant.
Oui, voilà.
Sur le toit, là. On a vu
des espèces de bonbonnes ou de silos à gaz qui remplaçaient l'essence.
Et alors, on lui donnait sac de pommes de terre un lapin ou un...
Nous avions aussi des parents, des cousins paysans, etc. Mm-hmm. Comme tous les Béarnais. Et on a eu quand même suffisamment à manger. Ils payaient parfois en nature, justement.
Voilà.
Non, on n'a pas souffert de ça, mais on a eu quand même l'occupation vraiment très pesante et avec le risque d'être pris comme otage et d'être fusillé. Et puis un jour, enfin, je ne vais pas raconter des anecdotes de l'époque, on n'a qu'une demi-heure. Mais un jour, je dirais que mon père a eu chaud.
Oui.
Le gars qui venait, l'homme de liaison qui venait chercher les choses qui étaient dans les sacoches chez nous, c'était peut-être des explosifs, il a été tué, abattu par les Allemands à 150 mètres de chez nous. J'ai encore les bruits des mitraillettes dans l'oreille. Et puis, il y a un gars qui arrive en courant, et tout essoufflé, ils ont dit « Ils ont tué la roue Turou, ils ont tué la roue Turou !» Et il est parti. Et puis, ils ne sont pas venus jusqu'à chez nous. Ils ont ramassé le corps. Il y a un monument là à Pau. Il y a un mémorial.
Mm-hmm. Jean-Paul Picapert, question bateau, parce que nous arrivons à la fin
de cet
épisode.
Mais vous voulez parler de l'Allemagne de l'Est ?
Ben, on en a un petit peu parlé quand même.
Oui.
Par rapport à
l'Antiquité. Ah oui, c'est vrai, oui, mais de la culture là-bas.
Oui. Ben, là, maintenant, je vais vous poser...
Je suis allé au théâtre de Bertolt Brecht en arrivant.
Formidable. Et vous avez rencontré Lotelenia aussi et tout.
Oui, j'ai vu Lotelenia, oui. Et puis j'ai écouté la musique de Kurt Weill et tout ça. Et c'était quand même pour un...
Ah oui, ah là là.
C'était formidable.
Mais c'est
ça.
Formidable, mais mon Dieu, vous êtes
j'ai
un...
vu le Arthur Howe et puis Moteur Courage et toutes ces choses-là, quoi. C'était vraiment...
Mais alors, vos enfants ont raison, écrivez vos mémoires.
Yes, oui, Yavol.
Yavol. Alors, juste question bateau pour conclure notre émission. Hein. Donc, vous arrivez sur une île déserte... Et comme vous êtes prévoyant, vous avez un livre préféré et un film préféré. Quels sont-ils ?
Oui, c'est vrai, j'y ai pensé récemment, mais je ne m'en rappelle plus très bien. Non, je dirais que le film que je préfère pour le moment, c'est le premier Avatar.
Ah oui ?
Oui.
Ah, vous êtes super jeune.
Ah,
vous.
J'ai adoré ce film. Le second, c'est moins réussi. Il y a trop de bagarres à la fin, trop de techniques de cuirassés, de sous-marins, tout ça. C'est trop moderne. Je pense qu'on l'a critiqué parce qu'il était, je faisais justement, trop ancien, le metteur en scène. Mais c'est le film que je préfère. Quant aux livres, j'en aime beaucoup de livres. D'abord les miens.
Oui. Alors, quel est le bouquin dont vous êtes le plus fier de ce que
en
vous
ce
avez
moment,
fait ? Celui sur les enfants ?
En ce moment, je travaille... j'ai écrit, j'ai discuté aussi sur France Inter sur un de mes livres qu'ils ont ressorti en poche cette année, fin de l'année dernière. C'est Opération Valkyrie,
ah oui.
L'attentat contre Hitler.
Oui.
Je pense que c'est un moment très important de l'histoire
allemande.
Dans
le fameux bunker, le loup, la tanière du loup.
La tanière du loup, mais surtout...
C'est un livre passionnant parce que je l'ai lu.
Oui.
Oui, 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 oui.
Oui, vous l'avez lu.
Oui, oui, je l'ai lu. C'est formidable. Et c'est von Offenstetten, comment il s'appelait ?
Stauffenberg.
Voilà.
Stauffenberg.
Stauffenberg.
Voilà. Oui, voilà. Quand j'amène mes étudiants de notre association à Berlin, on va y aller d'ailleurs bientôt, en début octobre, si vous voulez venir, vous pouvez, avec nous. Et on va aller faire une photo à nouveau devant le monument de Stauffenberg.
Voilà. Eh bien... C'est la fin de notre épisode numéro 122. Merci Jean-Paul Picapert. À l'Est, se passe-t-il toujours rien ? Diffusion tous les mardis à 11h30, rediffusion le dimanche à midi. Merci beaucoup Jean-Paul Picapert et bonne journée à tous nos auditeurs sur Radio Judaïca Strasbourg.